dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info du jeudi, bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
Ce soir, et bien évidemment nous allons commencer ce Canu Info par vous parler du Burkina Faso, on parlera aussi du Liban et de sa crise des poubelles et de sa lutte contre la corruption, on parlera des migrants, des réfugiés, on parlera un petit peu d'Israël et de Palestine, on reviendra sur le festival Visa pour l'image à Perpignan, on parlera des enseignants et de la grève. On parlera de condamnation, de McDonald's, des minutes, pas ensemble, mais enfin de condamnation. On parlera des OGM et puis on parlera de la tradition en Espagne et de la mise à mort des taureaux. On parlera de la ferme des mille vaches, oui, un petit peu de bêtes hein, ce soir. Et puis si on a le temps, on parlera des déchets, hein, d'un conflit entre Vinci et l'Angers-Loire Métropole. Et peut-être aussi on vous parlera un petit peu de vélo pour finir.
Et on va donc ouvrir avec le coup d'État qui a commencé hier, donc un général proche de l'ancien président dictateur, on va dire, Blaise Compaoré, donc qui l'a pris la tête des putschistes et renversé donc les autorités de transition. Hein, pour mémoire, on rappelle, ça fait à peu près un an que Blaise Compaoré a été mis dehors par la population. Hein, la population est descendue dans les rues parce qu'ils en avaient un petit peu marre du régime totalitaire ou quasi totalitaire de Blaise Compaoré et donc ils étaient arrivés à le faire partir. Avec l'aide de la France qui avait soutenu Blaise Compaoré jusqu'au bout, on le rappellera quand même. Donc des choses s'étaient mises en place et une élection présidentielle était prévue dans quelques jours, puisque c'était le 11 octobre. Donc là, gros coup d'État, enfin coup d'État tout court d'ailleurs, a priori à l'origine c'est les soldats du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, qui était un corps d'élite de l'armée et la garde personnelle de l'ancien président Blaise Compaoré, donc très très proche de Compaoré. Et c'est eux qui auraient pris le pouvoir. Donc ils sont arrivés hier mercredi en plein Conseil des ministres. Ils ont pris en otage le président intérimaire Michel Cafando, le premier ministre, enfin plein de gens, les autres membres du gouvernement, voilà. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont libérés ou pas. On espère pour eux qu'ils vont bientôt être libérés, mais c'est pas sûr du tout. En tout cas, ce matin, c'est hommes qui ont pris le pouvoir et qui ont monté ce qu'ils appellent un Conseil national pour la démocratie, ce qui nous fait beaucoup rire, hein, puisque on fait un coup d'État et on s'appelle machin pour la démocratie, donc ils sont bien évidemment pas crédibles, mais on a l'habitude hein, avec le Burkina Faso et avec d'ailleurs pas c'est pas le seul régime hein, qui utilise le mot démocratie à tort. Donc voilà. Donc, ils ont annoncé officiellement que le président de la transition a été démis de ses fonctions. Le gouvernement de transition et le Conseil national de la transition, l'Assemblée intérimaire, donc, sont dissous. C'est le discours officiel des putschistes. Donc, ils annoncent qu'ils vont faire une large concertation pour former un gouvernement. On les croit à mort, hein, bien évidemment. Donc, voilà ce qui s'est passé. Officiellement, c'est bien le général Diène Déré, donc, qui est impliqué et qui est porté aujourd'hui au pouvoir. Il faut savoir que c'est un proche de Blaise Compaoré, puisque dès le départ, il a fait participer au coup d'État de 87, hein, celui qui a amené au pouvoir Blaise Compaoré et qui a amené l'assassinat de Thomas Sankara, vous savez, le père de la révolution burkinabé, une grande figure de la révolution africaine, qui a été assassiné donc par les putschistes avec l'aide de la France et des États-Unis d'Amérique. Hein, on n'a jamais fait la lumière complète, hein, de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais bon, c'est bien de ça dont il est question, hein, de l'ancienne puissance coloniale française, des Américains. Et bien sûr des putschistes. À l'époque, on était en 1996. Alors, il justifie le coup d'État. Ils sont forts, hein, ce fameux Conseil national pour la démocratie qui n'en sera sûrement pas une. Donc ils ont dénoncé notamment la loi. Alors c'est vrai qu'il y a une loi qui interdit aux partisans de l'ancien président de concourir à la prochaine présidentielle. Ça a été un peu compliqué puisqu'ils ont peur du retour des putschistes. Ils ont essayé de se protéger et ça leur a pas servi. En fait, il faut même aller plus loin. Ils avaient prévu de supprimer ce RSP. Hein, qui avait été maintenu là pendant un an depuis le départ forcé de Blaise Compaoré, ces anciens gardes du corps ou corps d'élite de l'armée avaient été maintenus, et là ils venaient de décider de dissoudre ce corps et de l'intégrer à l'armée. Et donc quelques jours après cette décision, bizarrement ils font un coup d'État. Alors ils trouvent des raisons démocratiques, mais ou des raisons quelconques, mais ça, bien évidemment, ça marche pas. Alors pour l'instant, il n'y a aucune mobilisation de la population. Il faut savoir que hier, il y a eu, l'armée, ces gens qui sont de l'armée, ils sont 1300 au moins, surarmés, sont descendus dans la rue. Il y a eu pas mal d'actions déjà violentes, hein, contre pas mal de personnes qui pouvaient se trouver dans les rues. Des tirs, notamment, ont été entendus. Du coup, ce matin, les rues de Ouagadougou sont absolument désertes. Les magasins fermés, les marchés fermés. Malgré l'appel, notamment de balais citoyens, on se rappelle cette réunion de citoyens, de militants burkinabés qui s'étaient beaucoup mobilisés pour faire tomber le dictateur précédent. Ils ont appelé aussi à se bouger, mais pour l'instant, tout le monde est timide et tout le monde a peur. Donc, ça bouge pas trop. Il y a eu des réactions. Donc le coup d'État a été au moins de manière internationale un peu condamné. Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la CFAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le président français François Hollande aussi, hein, qui est dans son hypocrisie de la France-Afrique, mais qui a quand même précisé que les militaires français qui étaient sur place, ils n'interviendraient pas. Ah oui, donc il va pas non plus soutenir totalement l'ancien président qui a fait virer indirectement, qui était mis en place bien après, hein, qui avait pas participé, mais qui est quand même issu de ceux qui ont fait virer son grand ami, hein, qui était Blaise Compaoré, enfin le grand ami des politiques français. Si on regarde au niveau des journalistes, là c'était beaucoup plus violent, hein, puisque les militaires de ce RSP, ce régiment de sécurité présidentielle, ont bloqué les principales radios et télé burkinabés, notamment les radios privées. Donc il y a eu différentes actions violentes, hein, pour les obliger à se taire. Ils ont même coupé RFI hier. A priori, RFI réémettrait aujourd'hui. Donc voilà, grosso modo, la presse a été vraiment attaquée et violemment par le RSP. Donc voilà, la situation reste pour l'instant compliqué, hein. On sait qu'ils ont pris le pouvoir et on n'en sait pas plus. À voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, puisqu'ils sont que 1300, et 1300, s'il y a suffisamment de personnes motivées, ils peuvent être renversés. Le problème, c'est que les personnes qui ont fait fuir Blaise Compaoré sont pas armées, parce que c'est pas une guerre civile non plus. Du coup, là, ça semble quand même très très mal parti pour le processus démocratique burkinabé.
Alors je vais vous parler du Liban maintenant. Vous savez peut-être très certainement que depuis un mois, il y a une crise des déchets. crise des déchets qui n'est toujours pas résolue malgré l'annonce d'un plan de gouvernement la semaine dernière. Alors tout ça a commencé avec la fermeture de la principale déchetterie du pays. Un mouvement s'est rassemblé derrière le slogan « Vous puez », un slogan simple mais très efficace. Alors les protestataires dénoncent l'inaction du gouvernement, la corruption de la classe politique et ils demandent la démission du gouvernement. Alors mardi, des poubelles ont été déchargées devant le ministère de l'Environnement. Et puis hier, dans le centre-ville de Beyrouth, une manifestation s'est pas très bien terminée. Enfin même, à vrai dire, elle a même pas très bien commencé pour tout dire, puisque la police anti-émeute a attaqué les manifestants qui tentaient de passer quelques barrières. C'est 30 à 40 arrestations qui ont eu lieu. Sur place, les militants racontent que c'est essentiellement les organisateurs, des leaders réels ou supposés qui ont été ciblés et visés par la police. Donc il y aura quand même une volonté aussi de faire taire ce mouvement. Alors comme le raconte L'Orient Le Jour, c'est un journal libanais francophone, L'Orient Le Jour nous raconte cette manifestation et cette répression en photo. Et comme L'Orient Le Jour nous le raconte, ça a été quand même assez violent puisqu'il, sous une photo, la légende nous dit, l'un des activistes a même été traîné par les cheveux par des membres des forces anti-émeutes. Effectivement, on voit le gars qui est, on a l'impression que les cheveux vont lui être arrachés du crâne. Alors, en plus de ça, à côté de ça, à côté de la répression de cette police anti-émeute, comme s'il y avait des émeutes, hein, déjà, vous voyez, bon, c'est un principe. Il y a des groupes d'hommes qui sont présentés comme des partisans du président du Parlement, qui ont attaqué le sitting. La police était présente, mais elle n'a pas réagi, elle a laissé faire, et ça s'est passé plusieurs fois. Alors, après tout ça, en fin de journée, il y a eu un nouveau rassemblement devant le siège du gouvernement à Beyrouth, un rassemblement pour demander la libération des personnes arrêtées, dénoncer les attaques. Finalement, les militants ont été relâchés dans la soirée, mais il faut bien dire que la répression s'est accentuée ces derniers jours. Alors, on rappelle qu'il y a une situation, il y a une crise, hein, ce qu'on appelle la crise des déchets, la crise des poubelles en Liban, mais il y a une crise politique bien plus vieille.
Oui, parce que du coup, cette crise des déchets, aujourd'hui, c'est un prétexte pour essayer de faire tomber le gouvernement et les hommes politiques qui sont largement corrompus. Et alors, pour le coup, quelle que soit la couleur hein, politique, ils participent tous à un système qui est relativement pourri. Et la crise des ordures a permis finalement une contestation qui n'existait que très peu ces derniers temps au Liban, d'émerger, et une contestation populaire, hein, parce qu'il y a eu des manifs avec, pour le Liban, à l'échelle du Liban, relativement beaucoup de monde.
Ouais, ouais, puis c'est vrai, très mélangé aussi. Il faut dire que bon, les politiques font la sourde oreille. Le système politique, le système électoral au Liban tourne en rond. Il n'y a pas de renouvellement des politiques. C'est toujours les mêmes groupes, toujours les mêmes familles.
Ouais, si vous regardez, vous avez toujours Aoun qui se présente, l'ancien général. Vous avez toujours la famille Hariri pour. Alors, c'est un système très communautaire, hein, puisque chaque communauté a un bout de pouvoir hein, pour essayer de pas retomber dans la guerre civile. Système qui marche pas, mais qui a au moins empêché la guerre civile de revenir.
Ouais, parce que là, ils cherchent leur président quand même depuis plus d'un an et demi, ça commence à durer. Donc effectivement, cette crise, elle va pas juste se résoudre avec l'annonce d'un plan du gouvernement. En plus, personne ne croit à ce plan. Je veux dire, les plans, il y en a continuellement au Liban. Dès qu'il y a une grosse crise, il y en a souvent. Et rien n'est jamais résolu. La corruption est toujours là. Alors, à côté des manifestations, il y avait des militants et des militantes qui se sont mis en grève de la faim. Ça faisait 16 jours qu'ils étaient en grève de la faim. La santé de plusieurs d'entre eux et d'entre elles s'était sérieusement dégradée. Et finalement, il y a eu une annonce. Aujourd'hui, ils ont levé cette grève de la faim. Que là, ils mettaient leur vie en jeu et que ça suffisait. Par contre, ils ont bien dit qu'ils rejoignaient le camp des activistes. Hein, ils ne laissent pas tomber. C'est pas dire qu'ils, parce qu'ils arrêtent la grève de la faim, qu'ils rentrent à la maison. C'est pas vrai. Ces grévistes de la faim réclamaient la démission du ministre de l'Environnement. Bah, elle n'est pas venue. Hein, je vous le disais, les politiques font la sourde oreille. Et en plus de ça, la répression est en train de s'accentuer. Donc le Liban a encore bien du progrès à faire. Et alors, je vais continuer avec le Liban. Pour vous parler des réfugiés, la semaine dernière on vous disait la Jordanie et le Liban accueillent beaucoup des réfugiés, puis c'est pas nouveau hein. Dans la région ça fait longtemps, et en particulier ils accueillent des Syriens mais aussi des Irakiens. Et alors tu parlais de monsieur Aoun, Michel Aoun, hein, le leader des Maronites
mardi, qui est lié aux élections avec le Hezbollah.
Ouais, enfin vous savez au Liban ça change continuellement hein, les alliances,
c'est surprenant des fois,
c'est au gré des mouvements, des capacités des uns et des autres, et des promesses électorales. tout ça, c'est très intéressant. Et alors mardi, il a fait une grande sortie puisque il a expliqué nous sentons l'odeur d'un grand complot. Cette densité de population, le Liban ne peut plus la supporter. Donc pour lui, en fait, l'Europe est coupable d'un complot puisque quelque chose est organisé pour envoyer tous les Syriens au Liban et uniquement au Liban. Alors on reconnaît, l'Europe n'en veut pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait un complot. Alors
non, surtout que on peut pas. L'Europe a pas joué son rôle sur la guerre en Syrie. Et d'ailleurs, on peut dire que les seuls qui ont combattu un petit peu, c'est le Hezbollah dans le coin. Malheureusement, ils sont du côté d'Assad, donc c'est pas forcément le meilleur truc du monde, mais bon, au moins le Liban, ils ont participé.
Alors bon, sur Internet, on se moque pas mal de lui, parce qu'en plus, il a été jusqu'à dire, on nous traite de racistes, mais nous ne laisserons pas le complot passer. Nous ne laisserons pas faire ceux qui veulent naturaliser les réfugiés palestiniens ou syriens. Et oui, parce qu'il y a toujours la question palestinienne.
Je vais y venir.
Justement. Et alors, bon, il est pas le seul, hein, parce que le ministre des Affaires étrangères, monsieur Basile, lui aussi, on a mis une petite couche, puisque lui, il a aussi des solutions, comme notre monsieur Sarkozy, bien à nous, qui en a plein des solutions. La seule façon de résoudre cette crise est que les réfugiés retournent dans les régions sûres de Syrie, montrent leur attachement à leur pays. Hein, donc, il faut qu'ils soient un peu plus nationalistes avec la Syrie et qu'ils y restent. Ils vont bien trouver un petit coin de désert un peu peinard pour pas avoir des soucis avec les unités de monsieur Assad ou avec Daesh. Voilà, donc c'est simple nulle part. Hein, c'est pas parce que le Liban et la Jordanie accueillent beaucoup de ces réfugiés que la situation est simple pour eux. Le Liban a toujours eu beaucoup de problèmes à accueillir ces réfugiés, en particulier les Palestiniens. Et les Syriens.
Qui restent des citoyens de seconde zone quand même.
Et quand on parle de racisme, c'est ça, hein, c'est parce que les Palestiniens l'ont beaucoup connu et connaissent encore beaucoup de discrimination au Liban.
Justement, on va parler de ces Palestiniens qui migrent aussi, qui se mélangent hein, aux Syriens pour venir en Europe. On a des petits exemples comme ça, notamment un bateau qui s'est fait arrêter dans lequel il y a une vieille dame qui s'appelle Zahroura, qui avait 84 ans, qui témoigne et qui montre qu'en fait, un nombre croissant de réfugiés palestiniens qui étaient soit en Syrie, soit quelques-uns au Liban migrent avec tous ces Syriens, avec les Syriens qui sur des bateaux et qui viennent jusqu'ici. L'exemple de Zahroura est assez parlant puisque son bateau transportait 115 réfugiés, hein, dont 54 femmes et enfants. Ils sont partis du port syrien qui s'appelle Tartous. Ils sont passés prendre quelques personnes puisque le bateau n'était pas forcément très plein à Tripoli, donc au Liban. Le Tripoli du Liban, hein, pas de la Libye, du Liban. Et donc ils sont arrivés où ? À Chypre. Alors c'est un des rares bateaux qui essaye de rentrer par Chypre, hein, puisque jusqu'à maintenant les bateaux évitaient ces derniers temps plutôt Chypre. Donc ils sont dans un camp qui s'appelle Kofinou, donc à Chypre. Et la plupart finalement de ces gens sont des Palestiniens qui viennent soit du Liban, soit de Syrie. Alors c'est un phénomène qui est assez nouveau. Alors on comprend pourquoi quand notamment on voit l'interview de Mohamed Hussein Hassan qui montre les photos de son smartphone de son frère qui est à Berlin et qui a l'air heureux d'être à Berlin, comme il a vu effectivement les possibilités de enfin partir de ces zones de guerre, il a fait comme les Syriens et il s'est embarqué sur un bateau. Alors il faut savoir que, alors il y a les deux cas. D'abord, les réfugiés palestiniens qui viennent de Syrie. Il y avait des gros camps en Syrie. Par exemple, le camp de Yarmouk, qui était à côté de Damas, il y avait 160 000 personnes dans ce camp de réfugiés palestiniens. Ils sont là depuis 1948. Donc il y a les enfants, les petits-enfants, etc. Eux, ils ont été bombardés comme les autres. Aujourd'hui, il reste plus que 18 000 personnes dans ce camp. Donc ils sont partis, ces Palestiniens, qui sont pas considérés comme des Syriens, mais qui vivaient depuis plus de 50 ans en Syrie quand même. Eux, ils ont souvent fait l'étape par le Liban. Et puis les Libans, les camps palestiniens, il y en a 12, ils sont officieux, ils sont archi pleins, ça déborde. Du coup, ils décident de partir parce qu'ils pensent, et ils ont raison, que la vie sera meilleure en Europe que dans les camps palestiniens qui existent en Jordanie, puis surtout au Liban, parce que c'est surtout au Liban où ils se retrouvent. Et donc, on a ces Palestiniens qui se retrouvent mélangés à ces migrants et qui essayent de venir. Alors sur le Liban, il faut savoir qu'il y a 450 000 Palestiniens, c'est 10% de la population. C'est quand même énorme. Et donc c'est des migrants qui fuient plutôt l'insupportabilité des camps palestiniens plutôt que les bombardements. Alors ils ont peut-être échappé aux bombardements avant, hein, quand ils sont passés de Syrie au Liban. Et aujourd'hui, ils fuient le Liban parce qu'ils sont dans des conditions qui sont exécrables. On va rester avec la situation avec les Palestiniens et faire un bilan de ce qui s'est passé ces derniers jours sur l'esplanade des mosquées Al-Aqsa à Jérusalem, hein, parce qu'on a eu 3 jours d'affrontements relativement violents. Hein. Alors bien sûr, d'un côté, on a des Palestiniens musulmans qui veulent aller prier dans la mosquée Al-Aqsa et qui se défendent avec des bâtons et des pierres. Et de l'autre côté, on a essentiellement les forces de répression israéliennes, même si au départ c'était plutôt les agressions, c'est les colons ou les juifs extrémistes. Là, ils sont face aux forces de répression ou d'occupation israéliennes, et eux, ils ont les équipements qu'il faut, c'est-à-dire le gaz lacrymogène, balles en acier recouvertes d'un petit millimètre de caoutchouc, à bout portant, ça tue autant. Hein. Enfin, des choses comme ça. Ces violences sont importantes, hein, 3 jours. Alors ça a commencé lundi matin quand il y a eu des expulsions de Palestiniens et notamment l'entrée de Bab al-Silsila, qui est une entrée qui se trouve à Jérusalem, c'est l'esplanade des mosquées, c'est une sorte de gros carré ou de gros rectangle. Il y a plusieurs entrées et l'armée israélienne a bloqué une des entrées, ce qui a accélérer un petit peu les réactions des Palestiniens qui étaient ici, Palestiniens musulmans, sur cette esplanade des mosquées. Parce que pour rentrer, sur l'esplanade des mosquées, c'est filtré par l'armée et il faut être musulman. Et encore plus, Palestiniens musulmans, c'est encore plus facile d'y rentrer. Mais des juifs y rentrent aussi, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait normal, puisque c'est ces juifs, et même pas normal du tout, c'est ces juifs qui font faire de la provoque et créer ces violences. Alors, on a vu réapparaître tous ces juifs, je les appellerais extrémistes, mais pas si extrémistes que ça, hein, des juifs assez traditionnalistes, qui veulent la construction du fameux troisième temple. Il faut savoir que la mosquée Al-Aqsa, elle est construite sur un ancien temple juif, mais il y a moult années, hein, il y a presque 2000 ans. Donc il y a tout un mouvement porté notamment par Yehuda Glick, qui a été pas mal médiatisé. C'est un colon juif qui vient des États-Unis, qui est porteur de, qui est dans ce mouvement là, ces fameux mouvements du temple pour la construction d'un nouveau temple. Il n'est pas le seul, hein, parce que dans les provocateurs de cette semaine, on a eu Uri Ariel, qui est membre du gouvernement, qui est ministre israélien de l'agriculture, qui est donc venu faire ses provoques aussi, parce que lui aussi, il a expliqué qu'il fallait reconstruire le temple. Ça veut dire détruire la mosquée Al-Aqsa, c'est ça, parce que s'ils construiraient le temple à côté, ça serait déjà problématique, parce que les religions ont du mal à s'entendre ensemble. Mais en tout cas, ça serait plus acceptable que de détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire un temple juif, un nouveau temple. Alors, bon, bref, lui, il a, ce Uri Ariel, porté tout ça. C'est-à-dire que derrière ces juifs qu'on appelle extrémistes ou des choses comme ça, en fait, il y a le gouvernement, parce qu'il y a un ministre du gouvernement qui est carrément allé faire de la provoque et participer aux violences du côté des juifs israéliens. Alors, tous les Palestiniens du coin ont peur que effectivement, il y ait ce qui s'est passé à Hébron, c'est-à-dire qu'à un moment, il y ait une séparation avec un bout qui reste pour les Palestiniens, et ça sera sûrement un tout petit bout, et un gros bout qui soit accordé aux Juifs, parce qu'il y a quand même des enjeux sur cette esplanade des mosquées, des enjeux religieux, hein, et c'est que des enjeux religieux, c'est pas de la colonisation traditionnelle, là c'est vraiment de l'enjeu religieux. Alors, la question qui se pose, c'est que fait la Jordanie ? La Jordanie est censée gérer un peu cette esplanade des mosquées. À part faire... Alors bien sûr, elle a fait un communiqué en disant que la Jordanie n'était pas contente des agissements de l'État d'Israël, mais ça va pas plus loin. Il y a eu déjà d'autres violences, ils ont fait ça chaque fois, la Jordanie, ils sont pas allés plus loin. Ils ont un accord de paix avec Israël depuis 94. Peut-être que ce serait le moment de le remettre en cause pour essayer de faire de la pression sur ce gouvernement d'extrême droite qui est au cœur du pouvoir aujourd'hui israélien. Alors c'est pareil, l'Union européenne a fait quelques petites déclarations gentilles en disant c'est mal ce qui se passe. Et alors bien sûr, l'Union européenne, comme d'habitude, a renvoyé dos à dos les musulmans et les juifs. Alors que au départ, les provocations viennent des juifs israéliens et que c'est un peu facile de mêler les musulmans palestiniens au milieu, qui eux ont subi les choses et qui réagissent en réaction pour protéger leur lieu saint. C'est ça, c'est un lieu saint important pour l'islam. Je ne vais pas défendre une religion quelle qu'elle soit, mais là quand même, vraisemblablement, il y a des agresseurs et des agressés, et l'Union européenne n'a pas tout compris de ce qui se passe sur la mosquée, sur l'esplanade des mosquées. Alexandre. Voilà. Et on a même des violences importantes, et c'est Reporters sans frontières qui donne un petit peu des exemples, sur les journalistes, de la part bien évidemment de la police et de l'armée israélienne. Donc il y a plein d'exemples, au moins 10 journalistes ont été blessés, essentiellement bien évidemment des Palestiniens, c'était les 13 et 14 septembre, donc il y a quelques jours. Ils ont détruit le matériel vidéo des journalistes télé. Il y a eu des arrestations, pas mal de matraquages, de tabassages. Voilà, grosso modo, non seulement les forces de répression israéliennes s'en prennent aux Palestiniens, mais ils s'en prennent aussi aux journalistes parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Grosso modo, on est dans des attitudes qui sont assez peu démocratiques, mais les armées sont rarement défendu la démocratie, quel que soit le pays d'ailleurs. Du coup, ils se comportent juste en outil de répression de la politique d'extrême droite israélienne, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est l'extrême droite qui gouverne à travers les deux partis d'extrême droite qui sont la minorité bloquante du gouvernement de Netanyahou. Donc voilà, la violence encore et toujours en Israël et en Palestine, à Jérusalem très exactement là.
Alors la violence, c'est un sujet qu'on a beaucoup vu ce week-end à Perpignan dans le cadre du festival Visa pour l'image. Visa pour l'image, c'est un festival de photojournalisme. Donc évidemment, les grands sujets d'actualité, et en particulier les plus durs et les plus violents, se retrouvent forcément à Visa pour l'image. Alors il y a l'Ukraine, la Syrie, Ebola, le séisme au Népal, par exemple. On a évidemment beaucoup retrouvé la Syrie, la situation des réfugiés, des migrants, sur un certain nombre d'expositions. Mais à côté de ça, on a pu aussi avoir d'autres expositions. Alors évidemment, nous sommes allés voir l'exposition d'Arnaud Bonnemann et de Xavier Lambourg, de Harakiri à Charlie. Une exposition qui avait d'abord été refusée par le patron de Visa pour l'image, puisqu'il la trouvait trop franco-française.
Oui, alors c'est assez bizarre de voir ça, alors qu'il y a une expo sur les mères pseudo-adolescentes, je ne sais pas pourquoi, mères ados ça s'appelle. 22 ans pour une maman, c'est pas très ado. Mais bon, bref, qui était une expo franco-française, ça se parle dans le Nord, à Charleville-Mézières. Voilà. Mais vraisemblablement, Harakiri ne les intéressait pas, parce que c'était au début beaucoup autour d'Harakiri. Il y a eu les attentats à Charlie en début janvier, et il a changé d'avis parce que le sujet est devenu international.
C'est ça, ben oui, évidemment. Alors, c'est une expo sympathique, hein, non plus.
Ouais.
On n'est pas non plus sur de la belle et grande photo.
Ouais, mais il y a pas mal de photos noir et blanc d'époque. On voit, on les voit au tout début à faire des dessins, faire de la provoque. Il y a Coluche, parce que Charlie, c'était un truc, et Harakiri, c'est un truc très large, hein. On voit le professeur Choron, on voit tous ces gens qui étaient dans la provoque, qui allaient très très loin quand même.
Oui, et puis finalement, l'intelligence de ces projets de la maison de photographie signée. C'est pas forcément de proposer une exposition mémoire, commémoration, c'est-à-dire qu'on n'est pas le dos voûté, la tête baissée, en train de pleurer devant ces photos. Non, on est plutôt en train d'être là et de finalement être dans une ambiance de Harakiri et de Charlie, et d'être plutôt en train de se marrer de ce qu'on peut voir sur ces photos. Je sais pas s'ils auraient Charlie apprécié, si ça les aurait fait marrer de voir l'exposition qu'il y avait dans la cour de la caserne Gallieni, une exposition qui nous vantait les valeurs de nos forces de l'ordre, photo noir et blanc à la pluie, qui ne faisait pas partie du rencontre des visas pour l'image,
mais qui était dans le même lieu que l'expo sur Charlie, quoi.
C'était un petit peu décalé, mais on a vu d'autres expos. Il y avait par exemple cette expo le poids de l'héritage d'Hugo Chavez, une exposition en noir et blanc d'Alejandro Segarra. Ça c'était pour le coup une très belle exposition avec de très belles photos. Mais on a pu aussi, je crois que tu as beaucoup aimé l'exposition d'Andrés Koudaki sur la crise du logement en Espagne.
Oui, c'est celle qui m'a le plus plu. Effectivement, ces photos couleurs montrent les gens qui sont obligés de sortir leurs meubles par la fenêtre, un peu partout, alors que les keufs arrivent pour les expulser, parce que le système capitaliste a poussé à ces gens à acheter des logements alors qu'ils n'avaient pas les moyens de devenir propriétaires, et que les banques ensuite les ont fait éjecter. Et c'est assez symptomatique, hein, du fonctionnement du capitalisme. Et les photos sont très symboliques à chaque fois, parce qu'on voit des bouts de meubles, il leur reste un canapé, ils sont assis dessus dans la rue. Enfin voilà, c'est des scènes de vie, mais de vie quand on part de chez soi parce qu'on a expulsé.
Et puis, il y a la photo de cette femme, toute ridée, plus toute jeune.
Ah oui, parce que alors, du coup, on peut avoir 80 ans et se faire expulser sans problème.
Le visage, mais vraiment déchiré par la tristesse et peut-être la colère aussi, qui est devenue un peu le symbole, hein, quand même, aussi, de ces expulsions. C'est une photo assez terrible. C'est un très beau portrait. On a pu aussi voir l'exposition de Gerd Ludwig sur le tourisme nucléaire. On vous avait déjà parlé de tourisme nucléaire dans les expositions des rencontres d'Arles qu'on avait aussi pu voir cet été. C'est un sujet aussi qu'on retrouve beaucoup ces derniers temps, ouais. Mais c'est impressionnant, ces photos. On voit les gens en train de se prendre en photo
avec le compteur GGR là, ouais. Et ils comparent leurs résultats pour celui qui a pris le plus de radiation. Enfin, c'est complètement horrible. Ils sont complètement débiles quand même de faire du tourisme sur des trucs comme ça. C'est glauque au possible. Et c'est pas un tourisme, parce qu'il y a du tourisme militant où on trouve toujours ça un peu limite. Mais quand c'est du tourisme militant, on apprend des choses aussi. Là, c'est du tourisme voyeur. Enfin voilà, c'est du voyeurisme pur d'aller voir à quoi ressemble la centrale nucléaire exposée. Et c'est pas des antinucléaires ou enfin voilà, c'est juste malsain, moi, je trouve.
Ouais, et puis on apprend aussi dans cette exposition que il y a des mises en scène.
Avec des poupées.
C'est-à-dire que les touristes se mettent en scène, sur le tourisme nucléaire dans les différents lieux. C'est un petit côté glauque, mais c'était très intéressant.
Mais du coup, l'expo montre bien ce tourisme qu'on méprise quand même pas mal.
Et puis moi, j'avais retenu aussi cette exposition d'Alfred Jagodz. Zadeb, vous m'excuserez pour la prononciation, le corps des femmes yézédis comme champ de bataille, des très belles photos, un hommage à ces femmes, ces combattantes, ces résistantes. C'est une très belle exposition qui avait été, les photos avaient été commandées par Paris Match, hein, au départ. Ouais. Paris Match paye encore aujourd'hui des photographes.
On voit aussi d'ailleurs dans cette expo les femmes kurdes, hein, qui ont été médiatisées pendant un moment, là, les groupes militaires qui se battent contre l'État islamique et contre la Turquie, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que voilà, ils ont deux ennemis. Et cette expo, oui, elle est sympa. Ce qu'on notera quand même, c'est le choix bizarre, moi, je trouve, des sujets. Puisque on est tout autour. Alors voilà, le truc à la mode, c'est quand même l'islam agressif. Hein, donc Daesh, l'État islamique, vous appelez ça comme vous voulez. Et de partout, c'est ces musulmans intégristes qui ont pris les armes et qui massacrent, qui sont mis en avant. Et il y a d'autres endroits dans le monde où il y a de gros problèmes. Notamment, on pense à la Birmanie et aux Rohingyas qui sont éjectés manu militari par un régime fasciste, soutenu d'ailleurs par cette égérie là de soi-disant de la démocratie en Birmanie. Et là, il y avait rien là-dessus. Mais pourtant, c'est un énorme truc. Rien. Et ils ont fait le choix d'être orientés. Voilà, il y a beaucoup de trucs sur Daesh. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Ils étaient méchants, tout ça. Ils font péter des trucs. Enfin, on rappelle quand même que en Syrie, Daesh a beaucoup moins tué que Bachar el-Assad. Donc voilà, il faut aussi relativiser. Et là, ça relativise pas bien, moi, je trouve.
Alors, ce que Jean-François Leroy, le patron de Visa pour l'Image, pourrait te dire, c'est qu'il ne peut pas tout présenter. Par contre, ce qu'il a écrit dans son édito, c'est noir sur blanc. Alors, il nous dit, il imagine que quelqu'un dit, tu sais, les photos de guerre ou de famine, elles finissent par toutes se ressembler. Et lui, il répond à cette chose qu'il a dû entendre plusieurs fois. Quelle imbécilité et quel cynisme entend-on proférer ce genre d'absurdité à propos de la photo de sport. Donc voilà, ils ont eu pas mal de critiques ces derniers temps à Visa pour l'Image. Ils ont été remis en question sur certaines de leurs positions aussi et de leur présentation.
Et puis on se rappelle que les journalistes font pas que de la photo de guerre. Alors le reportage, la photo sur les mères ados, moi je les ai trouvées très bien ces photos, même si le sujet est mal fait parce que elles sont plus ados, ces mères, etc. Au moins on avait des photos qui sortaient de la guerre et qui montraient d'autres choses importantes. Et là, c'est une misère sociale du nord de la France. C'était hyper parlant, ces photos de cette misère sociale, hein, de ces gens qui ont comme seul avenir de se reproduire. Et dès qu'ils ont 15, 16, 17, 18, 19 ans, ils font des enfants parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, ou ils ont alors, plus que ça comme espoir. C'est l'analyse qu'on se fait, mais c'est ça dont il est question. Et cette misère sociale, elle existe dans plein de sujets, à plein d'endroits dans le monde. Et c'est là, bon, on a un reportage sur la misère sociale et 50 sur la guerre, quoi.
Alors, je compléterai juste en disant que la photographe qui a fait cette exposition semble très touchée. Hein. Toi, tu l'as vécu très durement, mais parce que le sujet est très dur, mais on sent qu'il y a une grande complicité quand même avec les familles qu'elle suit. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est cette espèce d'uniformité que tu as pu ressentir. Alors moi, j'ai fait le compte un peu. Ces sujets sur la guerre et les conflits et qui se tournent beaucoup autour de l'Ukraine, de la Syrie, mais pas que, hein, ils sont pas si présents que ça quand on regarde la masse des expositions. Par contre, ils sont très présents au couvent des Minimes. Il y a
plus gros lieu.
C'est le gros lieu au centre de ce festival, au centre de Perpignan, là en tout cas du vieux Perpignan. Il y a plus de 15 expositions dans le lieu, et c'est vrai que Visa pour l'image a fait un choix qui nous a un petit peu gêné dans cette scénographie, c'est de faire un choix très uniforme au niveau de la présentation. Les cadres sont tous les mêmes, les photos sont pratiquement toujours dans l'exposition de la même taille. En plus, on est dans une présentation en format paysage. Après, c'est le choix des photographes,
donc, 99%
hein,
de photos numériques. Donc, tous ressemblent. Ils passent tous dans Photoshop. Donc, il y a les mêmes types de traitements. Effectivement, là, on est. Ça démontre quand même un truc vis à vis de l'image, c'est qu'il y a aujourd'hui une homogénéisation de la photo. Depuis le développement du numérique, qui a été une catastrophe hein, pour le côté artistique de la photo, parce que là, voilà, tout se ressemble, c'est quand même assez effroyable. Alors même s'il y a eu quelques expos faits à la chambre, faits avec de l'argentique, encore quelques petites traces de créativité artistique sur l'outil photographique, mais c'est infime. Même si c'est un outil de journalisme hein, là, puisque c'est sur le photojournalisme. On a connu des périodes où c'était quand même beaucoup plus créatif.
Ouais, c'est vrai que moi je suis sortie lessivée de ce couvent des Minimes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde. Donc, alors ça, moi j'ai pas de réponse, hein, très sincèrement, Laurent. Je ne sais pas comment on peut faire un festival de photos qui aujourd'hui se retrouve avec trop de monde dans ses allées.
Bah, c'est gratuit, mais donc ils sont victimes de leur succès. Hein, mais...
Comme dans certains gros musées, quand il y a des grosses expositions dans les musées parisiens, c'est-à-dire, vous êtes quand même à la cafétéria. Je suis désolée de prendre cette comparaison pas jolie. Et puis vous avancez, ben. Gré forcé de photo à photo par rapport au propre rythme des autres personnes. Et puis ça permet de s'apercevoir aussi que les gens sont à peu près collés à 20 cm de la photo. Donc il y a un moment où on n'a même plus la possibilité de s'en écarter, ouais, d'y revenir. Mais... et de l'appréhender en entier et sereinement.
Ouais, il faut dire que presque toutes les photos ont 3-4 lignes de texte qui surchargent, qui enlèvent, du coup ça dessert totalement l'aspect photographique, hein, puisque une photo elle doit exister en tant qu'image, elle n'a pas besoin d'un sous-titre.
Ouais, alors ces petites légendes, elles sont constantes, elles sont très régulières.
Elles sont envahissantes.
Et parfois, elles sont inutiles puisque elles ne font que répéter ce qu'on voit à l'image. Donc parfois, on a une information qui est importante, mais on a l'impression que parfois on a voulu absolument mettre ces légendes et on a une information qui ne fait que répéter ce qu'on nous dit sur cette photo. Ou alors, il aurait fallu mettre peut-être un panneau supplémentaire pour nous représenter le travail du photographe, le contexte. Alors, je vais quand même prendre un exemple, excusez-moi, à l'inverse. Ça va, je vais me contredire, vous allez voir. On a été marqué par cette exposition Burundi, trois fois non. Alors, les photos sont assez bien. On est sur de la photo couleur de Goran Tomasevic sur les manifestations et les violences au Burundi.
On en a parlé pas mal dans ce Canu Info. Nkurunziza qui se présente pour un troisième mandat, alors que c'est interdit, il fait accepter sans modifier la constitution. Et donc, il fait un reportage sur ce qui se passe au Burundi.
Et alors, les photos sont très belles. Moi, je les ai trouvées très, très belles. Mais là, pour le coup,
sans le commentaire, ça marche à moins.
Bah, parce qu'on a vraiment, dans la légende, compris aussi le contexte du photographe, puisque par exemple, sur une très belle photo, un portrait d'un manifestant avec en arrière-fond un groupe de policiers, on apprend donc qu'il gesticule, ce manifestant, ce qui est quand même un terme...
Péjoratif. Du coup, le photographe est du côté du gouvernement.
Et puis surtout, c'est que aucun des manifestants n'a de nom et de prénom, mais peut-être évidemment le photographe n'est pas là pour aller forcément interpeller tout le monde en pleine manifestation pour lui dire donne-moi ton prénom. Par contre, une policière à qui il arrive des malheurs au niveau, dans cette manifestation, elle, on connaît et son prénom et son nom de famille. C'est-à-dire qu'elle est vraiment personnalisée. Et c'est là où, ben, du coup, la légende nous ont permis aussi de resituer un petit peu le travail de ce photographe. Donc là, pour une fois, on a été content, mais la plupart du temps, c'est les gens nous ont plutôt gênés. C'est là où c'est toute la difficulté entre le texte et l'image, entre l'un et l'autre, le renvoi. Finalement, moi, je m'aperçois que quand on peut avoir une revue qui va traiter de photographie, qu'elle soit journalistique ou pas, quand on a le texte, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'on a du temps. On peut à la fois apprécier la photographie, même si sur papier, même glacé, c'est moins joli. En tout cas, on a plus de temps. C'est vrai que dans une exposition, c'est les gens sont un petit peu embêtantes. Voilà, reste que ça reste un rendez-vous de la photo en France important. Comme tu le disais, c'est gratuit, donc ça vaut le coup. Voilà, et puis il y a quand même, comme on vous l'a dit au début, de très belles expositions.
On va poursuivre cette actualité avec un petit mot sur la grève des enseignants, parce qu'aujourd'hui, il y avait un appel à la grève essentiellement autour de la réforme des collèges, enfin, contre la réforme des collèges. Donc, officiellement, d'après les syndicats, il y aurait 37% de grévistes, le ministère donne 16%. Toujours un gros écart, mais il faut dire que le ministère compte tous les profs, même ceux en arrêt maladie, qui sont donc considérés comme non grévistes, parce qu'ils ne se déclarent pas grévistes. Forcément, ils sont malades. C'est pareil pour les profs en formation, etc. Donc, les chiffres du ministère sont toujours archi faux. Quant aux chiffres des syndicats, ils sont peut-être un peu gonflé, mais pas tant que ça, a priori. Donc voilà, c'est une forme de plainte hein, de la part des enseignants, aussi bien sur la réforme du collège, mais que sur l'ambiance générale hein, qu'il y a dans l'enseignement, le fait que les salaires n'ont pas augmenté depuis 6 ans, c'est ce qu'appelle le point d'indice, hein, ça marche pour tous les fonctionnaires d'ailleurs, que la réforme des collèges n'est pas terrible, qu'il y a plein de nouveaux enseignements, notamment pluridisciplinaires au niveau du collège, mais qu'il n'y a pas de moyens mis en phase, donc du coup on enlève des heures à des enseignements fondamentaux pour mettre dans du pluridisciplinaire. Enfin voilà, on rappelle l'attaque sur certaines langues anciennes ou langues vivantes. Donc la mobilisation a été, moi je trouve, relativement importante. C'est sur une journée, donc je ne sais pas si ça fera plier qui que ce soit. Ce qu'on notera, c'est qu'il y a une prochaine journée interprofessionnelle, cette fois-ci annoncée le jeudi 8 octobre, pour contre les politiques d'austérité. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de mobilisation syndicale et sociale importante en France. C'est que des épiphénomènes comme ça, et c'est pour l'instant assez triste. Mais en tout cas, on soutient donc les camarades en grève aujourd'hui.
Et puis je vais parler de McDonald's, précisément de McDonald's Paris Sud, filiale de McDo, qui a été condamnée en appel pour discrimination syndicale après avoir licencié en 2014 un salarié de la CGT. Alors la cour d'appel de Paris juge que le licenciement a été motivé par l'activité syndicale de ce salarié, donc syndicat la CGT. La société McDonald's Paris Sud a été condamnée à poursuivre à titre provisoire son contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Alors, il y a aussi 1500 euros de dommages et intérêts qui sont versés au syndicat CGT McDonald's Paris Île-de-France. Alors, il avait été licencié en 2014 pour faute grave. La direction lui reprochait un retard de 2h13 au mois de mars. C'était la seule fois où il a été en retard. La cour d'appel a quand même noté que le règlement intérieur de la société ne sanctionne pas le premier retard. Donc il avait été sanctionné pour un premier retard, alors que le règlement intérieur dit qu'il n'y a pas besoin d'être sanctionné, déjà ça. Et puis en plus, la cour signale que, bizarrement, son entretien préalable de licenciement était intervenu une dizaine de jours après une demande de congé pour formation économique, syndicale et sociale organisée par la CGT. Comme c'est bizarre, donc la cour a conclu à une discrimination syndicale, contrairement au conseil des prud'hommes qui avait rendu une décision défavorable en novembre 2014. C'est une belle victoire, faut le dire, parce que c'est pas facile de s'en prendre à McDo. Donc voilà, une victoire qui, on l'espère, en amènera d'autres. Et puis une autre condamnation en appel, c'est le patron de Minute, puisque la cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui la condamnation à 10 000 euros d'amende de Jean-Marie Molitor, le directeur de Minute. Je vous rappelle, il y avait une comparaison très sympathique. Hein, Madame Taubira avait été comparée à un singe. Souvenez-vous, ça a fait quand même un petit peu du bruit. C'était la couverture de l'édition du 13 novembre 2013. C'était Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Hein, souvenez-vous. Hein.
Ouais, c'est pas la première fois que le journal d'extrême droite avait des propos racistes, notamment contre Taubira.
C'était une plainte plainte, oui, bah non, mais bien sûr, oui, c'était une plainte qui avait été déposée par SOS Racisme, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, donc, et par le MAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Alors, donc, le journal, évidemment, est pas content. Il faut savoir que c'est le parquet qui avait fait appel, puisqu'ils estimaient que la sanction était pas assez importante. Donc, le parquet doit être très, très content. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la réaction de Maître Pichon, l'avocat du patron de Minute. Alors, lui, il parlait de, il dénonçait un acharnement, et comme tu l'as dit, c'est plutôt Madame Taubira qui a vécu et qui vit toujours un harcèlement permanent de la part de l'extrême droite, et en particulier de Minute. Donc, ça fait bien rigoler quand il ose nous parler d'acharnement, ce monsieur Pichon.
On va parler d'un truc qui a été voté par les députés et que vous n'avez peut-être pas entendu parler, ça concerne les OGM. En fait, il y avait un amendement qui avait été déposé par Brigitte Allain, députée Europe Écologie Les Verts de la Dordogne, qui voulait que les étiquettes, que des étiquettes nourries aux OGM apparaissent sur les barquettes de viande ou sur les produits transformés. Faut savoir qu'aujourd'hui, la viande OGM est très peu présente en France, hein, parce qu'ils sont obligés de mettre avec OGM. Mais, indirectement, on mange des OGM, puisqu'en fait, il y a à peu près 80% des élevages, d'après les professionnels du secteur, qui nourrissent leurs bêtes avec du soja ou du maïs transgénique. Et donc, on le sait pas. Et ce que proposait la députée Brigitte Allain, c'est simplement, non pas d'interdire, alors si, on va voir qu'elle voulait interdire aussi, mais bon, dans un premier temps, au moins que le consommateur soit au courant quand il achète de la viande, qu'il sache si c'est de la viande OGM. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de viande OGM qui existe, mais si les animaux avaient mangé des OGM ou pas. Non. Ça a été rejeté, donc hier soir, tard dans la soirée. Elle dit que les débats étaient polus et respectueux, Madame Allain, ce qui ne doit pas être le cas toujours, pour qu'elle le précise quand même. Elle n'était pas soutenue par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie d'un gouvernement non écolo. Mais elle avait aussi déposé deux autres amendements pour restreindre l'utilisation des OGM par les éleveurs, cette fois-ci pour pas nourrir les bêtes, pour interdire en fait que les bêtes soient nourries aux OGM. Elle avait beaucoup d'espoir, mais tout le monde savait que ça allait pas passer, hein, puisque les propositions d'amendements sont proposées d'abord à la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, quand ça concerne ce sujet-là, et le 9 septembre dernier, ils avaient dit non. Et c'était Viviane Lodicez, qui est une députée du Parti Socialiste, qui avait dit, je cite, elle avait trouvé une excuse pour dire non, elle avait dit « Ce genre d'amendement, c'est typiquement hors du cadre de ce projet de loi, c'est un projet de loi sur la transposition sur la prévention des risques de directives européennes. Pourtant, et c'est ce que dit d'ailleurs la députée d'Europe Écologie Les Verts, pourtant c'était assez logique que ça soit dans cette loi-là, puisque ça concerne bien la prévention des risques, hein, les OGM, il y a un risque potentiel. Voilà, c'était assez facile la réponse des socialistes pour dire on veut pas de tout ça. Grosso modo, ce qu'ils veulent pas, c'est de la transparence. Hein. Ils sont aux ordres du patronat de l'élevage, qui veut pas de transparence parce qu'ils nourrissent allègrement, hein, 80% des élevages, avec du soja ou du maïs OGM. Ils veulent pas que ça se sache, parce que ils savent que une partie de la population arrêterait d'acheter ces produits, dont ces animaux qui ont mangé des OGM. Donc ils sont contre la transparence, parce que de toute façon ils sont aussi contre la transparence qui est une transposition de la démocratie au sein du capitalisme. Et donc ils sont contre tout ça, et c'est pour ça que ça a été rejeté. Ce qu'on notera, c'est que l'excuse, elle est marrante, mais elle est pas valable pour une deuxième raison. C'est qu'il arrivait la même chose à Germinal Peiro. C'est un député socialiste de la Dordogne qui avait demandé un étiquetage cet été sur où il fallait étiqueter viande élevée et abattue en France. Donc au début, l'Assemblée dit discuter, et c'était dans un projet de loi qui n'était pas tout à fait le bon, mais ils ont accepté quand même. Ah bah oui, mais parce que ça faisait bien de mettre abattu en France, en étant dans la crise de l'élevage, ça faisait le truc nationaliste pour inciter les Français à manger français. Mais là, quand c'est pour protéger la population qui veut pas manger d'OGM, bizarrement, ça a été retoqué. Donc voilà, c'est une fois de plus, vous mangez... Alors, ça ne concerne que la viande non bio, parce que dans la viande bio, c'est interdit de nourrir aux OGM. Bien évidemment, c'est pour la viande produite de manière plus ou moins pourrie. Même la Belle Rouge, ils peuvent nourrir avec des OGM.
Alors c'était une belle histoire et ça se finit bien mal. Je viens d'apprendre que Vinci Environnement, la filiale du groupe Vinci, réclame 23 millions d'euros à l'agglomération Angers-Loire Métropole pour avoir arrêté Biopol. Bon nom, hein, pour une usine de traitement des déchets, une usine construite par qui ? Par Vinci Environnement, conçue par qui ? Par Vinci Environnement. Alors, à côté de ça, la collectivité a elle-même décidé de poursuivre Vinci, et l'exploitant Géval, filiale de Veolia Environnement, s'est retournée contre l'agglomération Angers-Loire Métropole, estimant que l'installation qui lui avait été remise était non conforme aux termes du contrat. Hein, c'est pas simple. Eh ben non, c'est pas simple. Alors il faut savoir que cette usine conçue et construite donc par Vinci Environnement n'a jamais satisfait personne, ni la collectivité, ni l'exploitant. Alors dès son ouverture, le site a eu des dysfonctionnements nombreux et en plus l'usine ne répondait pas au cahier des charges pour le traitement des déchets. Autrement dit, a priori, ça retraitait pas grand-chose. Hein, bien en dessous de ce qui avait été prévu. Alors ça c'est le premier point. Mais en plus de ça, deuxième point, il y a eu des nuisances qui ont entraîné des plaintes des riverains et l'agglomération a même été contrainte de racheter 6 maisons autour de l'usine. Et puis il y a eu un troisième problème, c'est en avril 2015, Géval, donc l'exploitant, qui renonce à accueillir des déchets pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. La médecine du travail avait pointé des risques liés à la concentration de poussière et des risques liés au taux d'ammoniac dans l'air.
Ah, c'est classe ce genre d'usine, dis donc.
Voilà. Et alors, résultat, en juin, les élus de l'agglomération d'Angers ont voté la résiliation du contrat de marché de conception-réalisation passé avec Vinci. Et en juillet, la collectivité va plus loin, puisqu'il y a une décision qui est prise, c'est fermeture de l'usine définitive. Pourquoi ? Ben parce que, a priori, les élus ont estimé que c'était moins cher et moins compliqué qu'une restructuration du site. Et ben, ça a agacé Vinci Environnement qui donc a déposé une procédure en août. Alors les 23 millions, vous allez me dire pourquoi ? Ben, vous allez me dire d'abord parce qu'il y a eu une résiliation du contrat. Certes, mais a priori Vinci Environnement est pas content parce que ça donnait une mauvaise image et Vinci Environnement aurait perdu des marchés en Pologne, en Angleterre et dans d'autres endroits du monde. Tout ça à cause d'une petite agglomération, une petite, mais voilà.
En même temps, s'ils avaient fait une usine correcte, ils auraient eu une bonne image.
Ah bah ça, c'est sûr qu'ils sont à peu priori plantés depuis le départ, sauf que ça a quand même coûté pas mal d'argent. Hein. En plus, cette exploitation était à perte, donc en plus, c'était difficile de la maintenir. L'agglomération avait amené encore de l'argent pour essayer d'améliorer les conditions de travail. A priori, les élus ont dit stop, voilà. Et ben maintenant, tout le monde se retrouve dans une joyeuse partie de c'est à qui la faute et qui c'est qui va payer.
On reste dans l'environnement avec les condamnations diminuées, on va dire, des opposants à la ferme des 1000 vaches. Rappelez, c'est ces syndicalistes de la Confédération paysanne qui étaient allés démonter un bout de la ferme des 1000 vaches. Donc, ils réclamaient la relaxe lors de l'appel qui avait lieu hier à la cour d'appel d'Amiens. Et ils ont obtenu une relative clémence, on va dire, du tribunal, puisque les peines de prison, puisque au départ, ils avaient des peines de prison, certes avec sursis, ont été commuées en amende, 300 à 5000 euros. C'est mieux, hein, parce que comme ça, il n'y a pas de casier judiciaire, etc. C'est quand même plus important. C'est pas les mêmes trucs dans le casier judiciaire si jamais il y avait une trace. Donc c'est 9 militants hein, qui s'étaient introduits sur ce chantier de la future ferme des 1000 vaches, hein, qui contiendra d'ailleurs pas 1000 vaches pour l'instant. Et ils étaient poursuivis pour dégradation, vol et recel aggravé. Alors symboliquement, la condamnation, c'est important qu'elle change parce que ouais, même si il n'y a pas de relax, c'est moins pire que ce qui avait été dit au départ. Mais symboliquement, ça montre qu'aujourd'hui, l'État, c'est-à-dire la justice, peut condamner une action syndicale. Et là, c'est bien une action syndicale qui est condamnée. C'est des militants syndicaux qui sont condamnés pour leur action syndicale. Et ça, c'est quand même pas une bonne image que la justice donne, parce que normalement, il y a une plus grande tolérance, on va dire entre guillemets, des actions syndicales. Donc voilà, le syndicalisme peut mener aussi à la prison, surtout qu'ils n'ont pas détruit hein, le truc. C'était comme avec le McDo à l'époque, ils avaient démonté pour ralentir symboliquement ce chantier horrible hein, qui est une ferme-usine avec des centaines de vaches à l'intérieur. Depuis, il y a aussi des sanctions administratives qui sont tombées cette fois-ci sur le patron de la ferme usine d'Émile Vache, puisqu'il a triché, hein, parce que voilà, il fait semblant d'être honnête tout ça, mais dans les faits, il est totalement malhonnête puisque il a l'autorisation pour 500 vaches pour l'instant et depuis le 28 août, il y a 763 vaches. Donc, il a été condamné une première fois par la préfecture de la Somme, donc à 7 800 € d'amende et 780 € d'amende par jour depuis le 28 août, tant qu'il n'enlève pas ses vaches supplémentaires. Donc il a fait un recours devant le tribunal administratif et on aura d'ici quelques mois le rendu du tribunal administratif. Voilà, on est quand même de tout cœur avec les militants syndicaux de la Confédération paysanne.
Alors d'autres militants mardi se sont mobilisés puisque la mobilisation anti-corrida se fait un petit peu de partout. Mardi c'était en Espagne à Tordesillas où se déroule la fête du Taureau de la Vega. Alors, c'est une fête qui est déclarée d'intérêt touristique depuis 1980. Et alors c'est superbe, hein, c'est une tradition médiévale, paraît-il, puisqu'on lâche un taureau dans les rues. Celui de cette année pesait 650 kilos. Et des cavaliers, des hommes à pied, tentent de le tuer à coups de pique de lance, hein, des grosses lances, hein, quand même, il faut le savoir. Alors, bon, comme j'ai pu le lire quelque part dans un article, j'en ferai pas de délation. Bon, finalement, c'est allé vite. Hein, il a mis 20 minutes à mourir. Hein, bon.
Oui, dans d'affreuses souffrances, bien
voilà,
évidemment, mais ça,
pas
ça
grave.
Compte pas, c'est un animal.
Sous les coups des lances, il avait été pourchassé, traqué avant ça. Alors, en réaction, c'est des centaines de militants qui sont posés à cette tradition. Ils sont pris des insultes et puis après les coups. Il paraît qu'il y a même les journalistes qui étaient là, qui se sont fait tabasser aussi, parce que bon, quand même, ceux qui aiment cette belle tradition ne veulent surtout pas avoir de débat, ne veulent surtout pas la remettre en question. J'ai même pu lire certaines de leurs réactions de ces amoureux de cette fête du Taureau de la Vega, que après tout, il y a des endroits où il y a des corridas, ils tuent tout plein de taureaux toute l'année. Là, ils n'en tuent qu'un.
Ouais, c'est vrai, ils sont gentils.
Ils sont sympas, hein, je veux dire, voilà. Et puis bon, en plus de ça, si jamais il n'est pas tué avant une certaine limite géographique, ah bah, il est gracié. C'est sympa, hein, non, quand même.
Il a
des droits, il paraît. C'est ce que j'ai pu lire.
Ouais. Oui, mais il n'a pas échappé, lui, quand même.
Alors, c'est devenu un vrai sujet, la corrida et la mise à mort en Espagne. Surtout depuis que des municipalités plutôt proches de Podemos se sont opposées à ces traditions. Donc, ça a changé un petit peu la donne. C'est devenu un vrai sujet, hein, pas comme chez nous, hein, pas un truc de dixième arrière, là-bas. Et puis il y a plein de sondages qui sont ces dernières années et ces derniers mois mis en avant. Par exemple, il y en a un qui a été organisé par l'association de défense des droits des animaux Human International, qui rapporte que 74% des interrogés sont opposés à ces traditions. Ça reste que du sondage, mais ils servent évidemment ici de propagande. Vous l'aurez bien compris dans ma bouche.
Alors on va parler un petit peu vélo pour se terminer ce Canu Info avec le fameux plan vélo qui a été lancé en 2014. Et dont on attend certains décrets très importants. Alors notamment le décret sur le kilométrage, l'indemnité kilométrique. Donc il faut expliquer les faits. Une expérimentation a été lancée avec 18 entreprises volontaires pour essayer d'inciter les salariés à laisser tomber la voiture et à venir en vélo. Ça c'est un vrai problème, c'est pas facile de faire abandonner la voiture aux automobilistes. Ils décident de donner une indemnité kilométrique de 25 centimes par kilomètre versée à ceux, donc voilà, au kilomètre parcouru par tous ceux qui viennent en vélo. Et ça, un impact énorme. Une hausse de 50% de la proportion se mettant en vélo. Alors, une hausse de 50%, s'ils étaient 10 dans l'usine, par exemple, ils deviennent 20. Alors, si c'est une usine de 500, ça fait pas tant que ça, mais ça commence à avoir de l'impact. Donc, ils font cette expérimentation, ils disent 25 centimes du kilomètre, ça marche. Et pas la drac, une fois de plus, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, massacre le truc, puisqu'elle annonce que, alors que le décret n'est pas paru, mais elle dit, ça devrait être de 12 à 15 centimes le kilomètre, par kilomètre parcouru. Du coup, on est moitié moins, et là, les assos, aussi bien la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, la FUB, que différentes assos comme le Club des Villes et Territoires Cyclables, le Club des Parlementaires pour le Vélo, etc. Plein de gens disent, mais ça va plus servir à rien, puisque l'impact financier sera tel que ça va pas être incitatif, puisqu'ils essayent d'être incitatifs. On est loin de l'idée d'interdire un jour la voiture, hein, ça se fera jamais. Mais au moins, essayer d'inciter par ce petit truc. truc financier, à prendre le vélo. Eh ben, non, elle est contre, elle dit 10, 12 à 15 centimes. Donc là, tout le monde est vent debout, il y a des expérimentations, enfin, il y a des choses qui tournent en Belgique, ça va jusqu'à 22 centimes d'euros, enfin c'est 22 centimes d'euros le minimum pour l'incitation à prendre le vélo, donc l'indemnité kilométrique. Enfin voilà, c'était une mesure qui allait pas coûter, qui allait rien coûter. Alors faut savoir quand même que c'est le ministre de l'économie, le ministère de l'économie, c'est-à-dire Bercy, on l'appelle Bercy, qui a demandé à ce que ça soit baissé. C'est pas les entreprises qui allaient payer. Hein, le MEDEF est pas monté au créneau pour dire mais ça va être trop cher l'indemnité kilométrique. Pas du tout. Ça vient du gouvernement. Et donc on se rend bien compte qu'une fois de plus, ce sont des traîtres à la toutes les causes, hein, les socialistes, notamment à celle de l'écologie. Donc voilà, alors il y a un nouveau plan qui est prévu pour 2016, peut-être qu'ils feront un truc dedans, ils font autre chose, bon voilà. En tout cas, le décret devrait paraître cet automne, donc on aura la vraie valeur, peut-être qu'avec les pressions qui sont en train d'apparaître, ils vont remonter ça à 25 centimes du kilomètre. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. Il nous reste 1 minute 30 pour faire un petit agenda. J'ai deux choses, moi. D'abord, la Griffe, la librairie La Griffe, qui est 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e vers le métro 16 Gambetta, réouvre ses portes. Voilà, elle a réouvert ses portes, mais pour faire des débats, hein, qui ont lieu le samedi, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, c'est un livre de Fanny Bunion, qui s'appelle Les Amazones de la Terreur, qui est sorti cette année chez Payot. Elle vient donc présenter le livre. Elle parle de ces femmes qui ont rejoint des organisations politiques violentes, notamment dans les années 70, hein, la Fraction Armée Rouge, les Brigades Rouges Italiennes, Action Directe en France, hein. On se rappelle de Nathalie Ménigon, etc., de ces militantes qui sont rentrées dans la lutte dite armée. Et elle, voilà, elle étudie ça. Elle est chercheuse, hein, en histoire à l'université de Rennes 2, donc elle étudie, elle passe, voilà, sous les fourches de son université et de son parcours universitaire, l'histoire de ces femmes et de ces femmes militantes violentes qui ont participé à de l'action directe.
Active.
Oui, si tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Et juste un petit truc sur la Croix-Rousse, avec quelque chose qui a lieu sur l'esplanade de la Grande Côte, ce dimanche à 16h, une assemblée citoyenne de la commune libre de la Croix-Rousse. Il y a plein de tags en ce moment sur la Croix-Rousse. Bon, si vous avez envie de voir ce qui se passe, allez-y. On sait que dans ce groupe-là, ils sont assez proches de la maire du premier arrondissement, qui est tout sauf une gauchiste. Donc, allez voir, ça va être peut-être un peu social-démocrate, mais il peut y avoir quand même de bonnes idées qui émergent de ce genre de choses. Donc, c'est Esplanade de la Grande Côte, ce dimanche à 16h.
Bah, c'est un lieu, justement, où chacun et chacune est invité à s'exprimer. Donc, évidemment, il faut prendre la parole et il faut s'affirmer dans ce genre de rendez-vous.
Voilà, pour être plus radicaux que c'est peu radicaux. Il est 20h à la pendule de la plus rebelle des radios. Vraisemblablement, la rediffusion de Papillon va recommencer. Est-ce que, camarade, tu es prête à lancer la rediffusion et que je monte le petit curseur? Eh ben voilà, nous allons lancer le petit curseur. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h.
Ciao.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir si...